Le faiseur de monde présente Le nouveau cycle de Yom. Deuxième livre, Le crépuscule de Los Angeles. Épisode 2.
J'en ai presque les larmes aux yeux quand j'y repense. Quelqu'un, je n'ai jamais su qui, connaissant mon handicap, avait fait une étude rapide de l'exposition au rayonnement sur toute la planète pour trouver l'endroit où je serais potentiellement le moins en danger. Et sur le D-177, on avait simplement demandé aux responsables de la sécurité d'aller voir ailleurs pour que je puisse, moi, m'installer à cet endroit. J'ai fait remonter mes remerciements par voie hiérarchique. J'espère que cette personne les a reçus. En tout cas, je n'ai jamais su qui c'était, on ne m'en a jamais parlé. Ce jour-là, c'est le responsable de la zone D qui me présentait l'endroit où j'allais m'installer. Il était content. Un flic, 20 ans, motivé. Voilà qui changeait un peu des candidats habituels qu'il pouvait avoir. Los Angeles est une petite planète perdue dans l'espace. Pour moi, c'était très bien. La gravité était faible. Quant au Conner, de toute façon, tout le monde en avait besoin. Spacon, Platon, Placon, personne ne pouvait respirer l'atmosphère. Du coup, peu de différence. Quant au rayonnement, ma foi, peu importe que je trimballe plus ou moins lourdement ma combinaison, ils avaient fait en sorte que mes appartements soient protégés. Et comme généralement la plupart des réunions se tenaient sous terre, je pouvais m'en passer. Pour le reste, bien je n'avais guère l'intention d'aller me promener à l'extérieur, et de toute façon, c'était fortement déconseillé. Los Angeles est une planète au milieu de nulle part, dans un système solaire au milieu de nulle part. C'est la seule planète jugée habitable par le Human Survival Institute. Sa malchance, si l'on peut dire, c'est d'avoir été au croisement de grandes routes commerciales entre différents systèmes qui, eux, ont une grosse population, et donc des échanges commerciaux importants. C'est donc devenu une planète entrepôt, comme il y en a quelques autres, un peu partout dans l'espace. Un endroit où on va stocker, temporairement, tout ce que les systèmes un peu lointains peuvent vouloir s'exporter, avec des notions de taxation et de stockage moins chères, à un endroit où il n'y a pas d'habitants, par rapport à des planètes surpeuplées, où le moindre mètre carré coûte trop cher, simplement pour entreposer les conteneurs. Il y a 24 zones, notées de A à X, avec à chaque fois un nombre d'entrepôts qui va de 150 à 200. Le D-177, et donc dans la zone D, c'est le numéro 177, il fait à peu près 17 000 hectares. C'est un entrepôt dit léger, c'est-à-dire qu'on n'y entrepose ni produits dangereux, ni produits militaires, ni produits trop lourds. Ce que j'avais sous les yeux était colossal. On me l'avait bien décrit, mais le fait de le voir, du haut de cette falaise, était impressionnant. Il occupait pratiquement toute la vallée. Et le responsable m'expliquait comment les choses se passaient. On avait mis des entrepôts un peu partout à droite à gauche, parce que ça coûtait trop cher de terraformer par-ci, terraformer par-là. On cherchait les endroits où on pouvait mettre les entrepôts et on les mettait à cet endroit-là. Du coup, chaque vallée était remplie. La planète était plutôt montagneuse. On touchait pas aux montagnes. On commençait par détruire et arraser tout ce qu'il y avait. Des petits vaisseaux avec des micro-bombes faisaient sauter les arbres, les rochers. Ensuite, on aplanissait avec une espèce de vaisseau comme on peut le faire dans les jardins, avec ces espèces de gros rouleaux. Sauf que là, ça aplanissait sur 200 mètres de large, avec un vaisseau qui pesait plusieurs dizaines de tonnes. On remplissait les trous avec la terre qu'on avait récupérée à droite à gauche, et une fois que c'était terminé, il n'y avait plus qu'à faire le sol. Oh, là aussi, pour le D-177, pas besoin d'avoir un vrai sol. Pour les entrepôts dans lesquels il y avait des matériaux lourds ou dangereux, il y avait des dalles de béton. Ça coûtait les yeux de la tête, et du coup, le stockage dans ces entrepôts était beaucoup plus cher. Pour le D-177, ça n'était pas nécessaire. Le matériel n'était pas assez lourd. Alors on avait vitrifié. Là aussi, c'est un vaisseau spatial spécialisé qui vitrifiait des dalles de 50 mètres par 50 mètres, avec une chaleur telle que la couche de silice que l'on avait préalablement déposée se solidifiait pour une épaisseur de pratiquement 10 cm. Le vaisseau faisait une première dalle, puis ensuite passait à la suivante. La silice se mélangeait alors avec la dalle d'à côté, et on pouvait avoir l'impression d'un seul tenant entre les dalles. Quand il y avait un petit peu de jeu, le vaisseau s'en rendait compte, alors il allait, d'une certaine manière, tirer la deuxième dalle pour qu'elle soit totalement jointive avec les précédentes et faire un raccord. Il paraît qu'au début, on voyait le sol à travers les 10 cm de verre et que les raccords se voyaient parfaitement. Puis forcément, avec les années et le fait que tous ces conteneurs en métal pouvaient rayer le sol, non seulement on ne voyait plus ce qu'il y avait en dessous, mais il fallait un œil exercé pour savoir quand est-ce qu'on passait d'une dalle à une autre. Voilà, 10 cm de verre. Ensuite, on montait les hangars. Il fallait protéger de la pluie, mais surtout protéger des météorites. Et puis, les rails, les robots qui chargeaient et déchargeaient, à côté de l'immense plateforme, qui elle, par contre, était en béton, pour permettre les atterrissages et les décollages des petits transporteurs. Les gros vaisseaux de transport, évidemment, ne s'approchaient pas. Ils restaient en orbite haute, et ensuite, il y avait ces petits transporteurs que l'on chargeait là-bas dans l'espace, qui arrivaient ici, qui déchargeaient leurs containers et que les robots récupéraient pour ensuite les rentrer dans le hangar. La maladie d'Arnitz ici faisait sourire, car bien sûr le toit du hangar était traité non seulement pour arrêter la pluie, mais aussi pour arrêter les rayonnements. On protégeait ce qu'il y avait à l'intérieur. Du coup, je pouvais presque me promener sans avoir besoin de combinaison. Sachant que les lieux de vie et les lieux de réunion, eux, étaient au sous-sol. Mais là, par contre, ce n'était pas un problème de rayonnement. C'était un problème de météorites. 99% d'entre elles arrivaient à la surface sous forme de grosses poussières, parfois de petits cailloux. Ça faisait souvent du bruit, des impacts que l'on finissait par ne plus entendre. De temps en temps, elles étaient plus lourdes, plus grosses. Potentiellement, ça posait un trou dans la toiture, ou ça la déformait, il fallait intervenir. Si l'une rentrait, elle était arrêtée par le conteneur. Et puis de temps en temps, on avait une vraie chute de météorites qui traversait le plafond et qui venait endommager la marchandise. Là, il fallait réagir vite. Et il y en avait quand même assez régulièrement. Alors, nous vivions dans des bunkers au sous-sol. Je dis nous, façon de parler. Pour le D-177, je m'occupais de la sécurité, parce que j'avais deux personnes qui s'occupaient de la logistique. Les deux seuls humains. J'avais sous mes ordres une trentaine de robots dirigés par trois intelligences artificielles. C'était ça la sécurité. Eux avaient plus de 150 robots sous leurs ordres. C'était autre chose. J'avais sous les yeux l'endroit où j'allais vivre les trois prochaines années. L'endroit où j'allais pouvoir devenir citoyen des villes virtuelles à raison de 2 à 3 heures par jour. Le responsable m'avait dit, ici, il n'y a que trois grands dangers pour la sécurité. Vos trois ennemis, vous devrez y penser tous les jours. Et c'est sur ces ennemis-là que l'on vous attend. Les statistiques varient d'un entrepôt à l'autre. Alors disons, par ordre global de probabilité. Votre premier ennemi, c'est la grosse météorite qui défonce le toit et qui abîme le matériel. Il faut, de manière extrêmement rapide, valider les dégâts, mettre en quarantaine tout ce que l'on peut, faire en sorte que les allées et venues de chargement et de déchargement puissent continuer sans problème. Et là, croyez-moi, vos deux collègues de la logistique ne vous rateront pas si jamais sur une allée pour robots transporteurs, vous laissez des restes de containers traîner plus de quelques heures. Et puis évidemment, il faut réparer le toit. Et puis toute la paperasserie, enfin, comme vous pouvez l'imaginer. Et ça, globalement, chez vous, environ une fois par mois. Vous verrez, c'est la routine. On n'y peut rien. Le deuxième problème, celui-là, plus difficile à détecter, c'est l'instabilité de ce qu'il peut y avoir dans les conteneurs. Personne ne sait ce qu'il y a dans les conteneurs à part les compagnies. Alors des fois, vous avez des produits un peu bizarres, qui vieillissent mal, qui interagissent avec les parois du conteneur ou avec ce qu'il peut y avoir autour. Là aussi, ça peut être dangereux. Il peut y avoir des explosions, il peut y avoir de la corrosion, du poison. Faut ouvrir l'œil. Le troisième, c'est le grignoteur. Je vous le dis tout de suite, on va vous casser les pieds. Toutes les semaines, vous aurez un rapport à faire. La compagnie, les deux premiers cas dont je viens de vous parler, elle s'en moque. Le premier, elle est assurée. Ça arrive tellement régulièrement. C'est juste un problème de statistiques et de frais. Le deuxième, c'est relativement rare. Et généralement, on se retourne contre la compagnie de transport. Donc ça les embête moins. Par contre, le grignoteur, ça c'est très très énervant. Ça donne une très mauvaise image. On détecte souvent ça bien longtemps après, et les effets peuvent être catastrophiques. Je vous rassure, ça arrive tout de même assez rarement, mais sachez qu'on vous cassera les pieds et que ça sera votre sujet numéro un, systématiquement, dans les échanges, dans les rapports. Et si jamais vous êtes inspecté, vous devrez être, sur ce sujet-là, absolument inattaquable. Comment ça marche? Une planète entrepôt. Un vaisseau arrive, se met en orbite basse, et puis nous avons nos transporteurs, qui vont récupérer les conteneurs, qui les posent sur votre dalle de béton, et là vous avez nos robots transporteurs qui les prennent et qui les mettent quelque part à l'intérieur de votre entrepôt. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, le conteneur, pour nous, juste avec la manutention, il va y avoir deux moyens de le connaître. Le premier, c'est sa plaque d'identité. C'est grâce à ça qu'on sait à qui il est, qu'on peut donc le retrouver pour le livrer le jour où potentiellement quelqu'un viendra pour l'enlever. Et puis on fait quand même quelques vérifications. La seule qu'on peut faire, bah c'est le poids. Généralement, le poids qu'il y a dans un conteneur ne bouge pas avec les années. Donc on prend un conteneur, il a une fiche d'identité. Dans la base de données chez nous, on l'inscrit avec son poids. Et puis le robot l'inscrit à l'endroit où il l'a mis. Le problème, vous voyez, les entrepôts ne sont pas très hauts. On ne sait jamais quand est-ce qu'un conteneur va arriver et quand est-ce qu'un conteneur va partir. Ça doit se faire le plus rapidement possible. Donc pas question de les empiler les uns sur les autres. Vous n'avez qu'une seule couche de conteneurs, un seul étage. Et sur les robots qui font les manipulations, il y a ceux qui les emmènent à l'intérieur, il y a ceux qui les sortent, il y a ceux qui les récupèrent dans l'espace intermédiaire, qui vont les placer là où ils peuvent, généralement le plus près possible pour aller vite. Et ensuite il y a les autres, qui eux vont essayer de ranger les conteneurs intelligemment, en fonction des places qui se libèrent, en fonction des dégâts que vous pouvez avoir à cause de météorites qui en a écrasé plusieurs. Du coup, la base de données pour savoir où ils sont, des fois, c'est un petit peu compliqué. Le grignoteur, il joue là-dessus, et ça peut nous coûter très cher. On prend un conteneur, on le remplit avec de la ferraille, un truc lourd qui justifie qu'il y ait de la marchandise, mais qui n'a pas de valeur. Et puis, on met un grignoteur. Une fois que le conteneur est en place, le grignoteur détecte si jamais il y a des robots autour, il fait un trou dans le conteneur et il sort. Vous imaginez bien qu'ici, on n'a pas de vol, va pas y avoir des détecteurs partout. À part les robots qui passent, et encore, eux-mêmes ne sont pas équipés pour ce genre de choses, rien ne peut inquiéter le grignoteur. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, grâce à son scanner, il va essayer de trouver un conteneur dont le poids a l'air d'être à peu près similaire au sien. Quand il l'a trouvé, il détache la fiche d'identité, il fait l'échange, puis il retourne dans son conteneur à lui. Et il peut dormir. Un jour, un petit peu plus tard, celui qui a livré ce conteneur grignoteur reçoit de son client l'ordre de récupération. Et évidemment, au lieu de lui livrer la ferraille avec le grignoteur, eh bien, on lui en livre un autre. Ah, c'est le grand hasard. Aucune idée de ce que le voleur va pouvoir récupérer dans son conteneur. Ça aura, de toute façon, beaucoup plus de valeur que de la ferraille. Ce qu'on a ici, vous imaginez le coût de transport et le coût de stockage, c'est forcément quelque chose de valeur. Alors, quoi que ça puisse être, le voleur rentre largement dans ses frais. Voilà. C'est ça votre boulot. C'est ça votre boulot, 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Le reste du temps, ben, de toute façon, vous êtes quand même là. On vous déconseille de sortir. Vous en avez pour 3 ans. Du moins, nous l'espérons tous. Car ils sont nombreux, les candidats qui viennent, que ce soit comme pour vous, pour la sécurité, ou pour la logistique, qui finissent par ne pas tenir le coup. Tout seul, au milieu de nulle part, juste avec une ligne. Souvent, ça leur coûte très cher, mais ils décident de partir avant la fin. Ou alors ils tiennent 3 ans, mais ils font rarement plus. Et un dernier conseil. Vous avez intérêt à bien vous entendre avec les deux autres. Les seules personnes vivantes que vous avez autour de D-177. Enfin, personnes vivantes, je veux dire humains. Évidemment, je ne compte pas les anges.